Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge. Au sommaire de cette édition du 8 juin 2018, l'ex-chef rebelle congolais Jean-Pierre Bemba a quitté en appel à la CPI. 11 morts dans une attaque djihadiste dans le nord du Cameroun. Marche pacifique à Bamako ce matin pour réclamer la transparence lors de la présidentielle du 29 juillet. Donald Trump est au Canada pour une confrontation attendue avec ses alliés du G7. Et dans 10 minutes, la page économie et les sports avec notamment la suspension par la FIFA du président de la Fédération ghanéenne de football pour corruption. L'ancien vice-président et ex-chef rebelle congolais Jean-Pierre Bemba a été acquitté en appel devant la Cour pénale internationale. Il avait été condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Anastasie Tudiech.
Pour la majorité des juges de la Chambre d'appel, Jean-Pierre Bemba est acquitté. La Chambre d'appel a estimé que les juges de la première instance ont commis des erreurs qui ont sérieusement entaché leurs conclusions, parmi lesquelles des charges formulées de façon trop large, la non-prise en compte des mesures prises par Jean-Pierre Bemba, le fait qu'il n'y avait aucune indication du nombre des crimes. Monsieur Bemba ne sera cependant pas remis en liberté immédiatement, car il est poursuivi dans une affaire de subornation de témoins. La Chambre d'appel estime de son côté qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en détention. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation pour le Congo, s'est réjoui de la nouvelle via un tweet. Le vrai jeu politique va commencer avec ce grand leader de la scène politique congolaise en liberté, a-t-il écrit.
Dans le nord du Cameroun, 11 morts et 2 blessés dans une attaque à Maroua. Les victimes sont des civils et des membres présumés de Boko Haram. Notre correspondant Emmanuel Juntap nous en dit plus.
Selon le maire de Maroua 2e, Abdoulaye Yerima Bakari, joint au téléphone par VOA Afrique, les combattants de Boko Haram ont fait une incursion vendredi matin dans 3 quartiers de l'arrondissement de Maroua 2e. Durant leur incursion, ils ont égorgé 6 personnes, parmi lesquelles le chef de Magavi. La 7e victime civile, la mère du chef égorgé, a rendu l'âme des suites de crise cardiaque, selon une source médicale de la région. Cet après-midi, les sources de sécurité de la région de l'extrême nord ont annoncé avoir abattu 4 éléments de Boko Haram, blessé 1 et capturé 2 autres, tous ayant pris part à l'attaque meurtrière de ce matin. 5 fusils d'assaut AK-47, des boîtes de chargeurs et quelques munitions volées par les éléments de Boko Haram et appartenant aux forces camerounaises déployées dans cette région ont été récupérés entre les mains de ces assaillants. Le gouverneur de la région de l'extrême nord et son état-major ont effectué une descente sur les lieux ce matin et ont exhorté les populations à plus de vigilance. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Le président congolais Joseph Kabila a été désigné autorité morale d'une plateforme électorale. Selon un compte-rendu de l'exécutif, le Conseil des ministres a adopté à l'unanimité la création d'une grande coalition dénommée Front commun pour le Congo, dont les membres apporteront leur soutien à une candidature unique à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle qui est prévue le 23 décembre. Le dépôt des candidatures commence le 25 juillet avec publication de la liste définitive des candidats le 19 septembre. La Voix des Sans-Voix a dénoncé la mort d'un officier condamné pour l'assassinat de l'ex-président congolais Laurent Désiré Kabila en 2001, ainsi que la volonté, selon l'ONG, d'éliminer 35 autres condamnés emprisonnés. L'ONG s'est déclarée vivement choquée par la mort le 1er juin dans un hôpital militaire à Kinshasa du colonel Oscar Mayembe à l'âge de 69 ans. Des milliers de personnes se sont rassemblées pacifiquement place de la Liberté à Bamako à l'appel de la coalition pour l'alternance et le changement pour exiger la transparence de l'élection présidentielle prévue le 29 juillet. Notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
Place de la Liberté. Noun Togo fait partie des premiers marcheurs arrivés sur place. Il prend la température du terrain avant d'aviser les leaders qui peuvent faire mouvement vers le point de départ. Noun Togo, secrétaire à la communication de l'opposition.
Aujourd'hui, l'insécurité devient plus en plus très grave au nord du Mali et au centre du Mali. Plus de 500 écoles fermées avec 2600 morts après la signature de l'accord d'Alger. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de travailler pour qu'on puisse avoir une élection démocratique libre. C'est pour cela que nous profitons de l'occasion pour dire à la Cour constitutionnelle. Ils ne vont pas continuer a annulé les élections pour le plaisir d'annuler.
La coalition pour l'alternance et le changement dénonce la violation de la nouvelle loi électorale, car dans l'emplacement et la fixation des bureaux de vote, tous les partis politiques devaient être associés. Maître Demba Traoré de l'URD.
Nous avons compris que certains préfets n'étaient pas en train de faire ça, d'observer cette règle. Le ministre a été informé et il a dit à notre grande surprise qu'il n'était pas au courant. Nous sommes dans un état comme ça, les préfets font ce qu'ils veulent, le ministre n'est pas au courant et il faut faire confiance à ce processus. Mais ça, c'est des attitudes à dénoncer. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et ce processus a l'obligation d'être correct, d'être transparent, d'être crédible.
Tout au long de la marche, un important dispositif sécuritaire a été déployé pour encadrer la manifestation, qui d'ailleurs s'est déroulée sans incident. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, recommande de redéfinir les priorités de la mission de paix des Nations Unies au Mali. Dans un rapport au Conseil de sécurité diffusé cette semaine, il a estimé que la MINUSMA devrait endosser un rôle politique accru dans la perspective du renouvellement fin juin de la mission. Un demi-million d'enfants souffrant de malnutrition sévère autour du lac Tchad ont besoin d'une aide vitale, a alerté l'ONU ce vendredi, disant que moins d'un tiers des 1,5 milliard de dollars nécessaires ont été récoltés. 5 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë et 2,4 millions ont été déplacées. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle du Bénin a pris ses fonctions après des mois de désaccord entre l'institution et la présidence. Joseph Diogbénou, ancien ministre de la Justice proche de Patrice Talon, a été élu au cours d'une élection à huis clos jeudi dernier. La Cour avait déclaré non conforme à la Constitution la loi sur le retrait du droit de grève aux magistrats et aux travailleurs de la santé et de l'éducation, une des réformes majeures du pouvoir. La Cour constitutionnelle du Bénin compte 7 membres, dont 4 sont désignés par le Parlement et les autres par le président de la République. L'ambassade américaine au Mozambique a déclaré avoir des informations indiquant la probabilité d'attaques imminentes dans le nord du pays, secouées par des attaques attribuées à des djihadistes. Nous conseillons fermement aux citoyens américains se trouvant dans le siège du district de Palma d'envisager de quitter la région immédiatement, indique l'ambassade sur son site internet. Près de 30 personnes ont été récemment tuées dans des attaques à la machette et au couteau dans des zones rurales de cette région.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Allemagne, la Belgique, l'Afrique du Sud, l'Indonésie et la République dominicaine ont été élus par l'Assemblée générale de l'ONU pour siéger au Conseil de sécurité comme membres non permanents en 2019 pour 2 ans. Il fallait obtenir 2/3 des voix pour être élu sur 190 pays présents. Le président Donald Trump a appelé ses homologues du G7 à envisager la réintégration de la Russie dans cette instance. Le sommet se tient au Canada sur fond de tension avec les nouvelles taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ils ont expulsé la Russie, ils devraient réintégrer la Russie, a déclaré Donald Trump. Le président américain a fait savoir qu'il avait hâte de remettre à plat les accords commerciaux avec les pays du G7. L'atmosphère s'est envenimée ces 2 derniers jours. Donald Trump a répliqué aux critiques du premier ministre canadien Justin Trudeau et du président Emmanuel Macron. Il a ironisé en demandant au premier ministre Trudeau et au président Macron d'imposer aux États-Unis des taxes massives et de créer des barrières non tarifaires. Les 4 Européens, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May et Giuseppe Conte, se sont réunis avant le début du sommet pour examiner les menaces américaines de guerre commerciale. L'objectif, selon le président français, n'est plus de convaincre M. Trump de revenir sur les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Ottawa dit croire toujours possible d'élaborer un consensus sur la pollution plastique des océans, l'éducation des filles et la lutte contre les ingérences étrangères dans les processus démocratiques. Mais c'est le commerce qui sera au centre des débats.
Les chefs d'état-major des armées russes et américaines ont eu à Helsinki, en Finlande, une rencontre constructive sur le conflit en Syrie, a indiqué le ministère russe de la Défense, Valery Gerasimov, et son homologue américain Joseph Dunford ont échangé sur la relation bilatérale et la prévention des incidents et noté l'importance de stabiliser au plus vite la situation en Syrie, a précisé le ministère. Et Anthony Bourdin, chef américain célèbre grâce à l'émission Parts Unknown sur la gastronomie des quatre coins du monde, s'est suicidé en France à l'âge de 61 ans. Le parquet de Colmar a précisé qu'il avait été retrouvé pendu dans un hôtel de luxe de Kaiserberg. Sa mort a été confirmée par CNN, indiquant qu'il a été découvert dans sa chambre par son ami français Eric Ripper, chef du Bernardin à New York. Le président Donald Trump a présenté ses condoléances à ses proches en déclarant qu'il aimait son émission et que c'était un personnage. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakita.
Le Gabon lance son capital investissement avec près de 20 milliards de francs CFA. Ce nouvel outil au service des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries a été baptisé Okoumé Capital pour apporter un souffle nouveau aux entreprises locales. Cette structure est placée sous la tutelle du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Elle a pour mission de développer un tissu d'entreprises, accroître les compétences et attirer d'autres investisseurs, soutenir les Gabonais dans la réalisation et l'expansion de leurs projets. Okoumé Capital se fera en quatre segments, le capital risque, le capital développement, le capital transmission et le capital retournement. Au Zimbabwe, la Banque de financement des infrastructures a approuvé 85,7 millions de dollars pour appuyer les projets bancables au cours de l'exercice 2017. Cette institution soutiendra des projets de logement, d'hébergement des étudiants, d'assainissement et de santé municipale et de réhabilitation d'une usine de traitement des déchets.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La FIFA a suspendu le président de la Fédération ghanéenne de football.
Et oui Nathalie, Kwesi Nyantakyi, soupçonné de corruption, a été suspendu 90 jours à titre provisoire par le président de la Chambre d'instruction de la Commission d'éthique de la FIFA. Hier, le gouvernement ghanéen avait annoncé qu'il avait décidé de prendre des mesures immédiates pour dissoudre la Fédération ghanéenne de football après les révélations explosives d'une enquête journalistique sur la corruption de dirigeants et d'arbitres. Dans un documentaire, des journalistes d'investigation démontrent que Kwesi Nyantakyi est impliqué dans plusieurs délits de corruption présumés, mettant en jeu des millions de dollars de pots de vin.
Marché des transferts, Harry Kane a signé un nouveau contrat avec Tottenham.
Et oui, l'international anglais a signé un nouveau contrat de 6 ans avec Tottenham, avec 41 points, toutes compétitions confondues en club. Harry Kane a réalisé sa meilleure saison avec les Spurs et terminé deuxième meilleur buteur du championnat anglais avec 30 réalisations derrière Mohamed Salah de Liverpool, 32 buts. Débarrassé des tracasseries du Mercato, l'attaquant de 24 ans pourra entamer sereinement la Coupe du Monde avec l'équipe des 3 Lions dont il a été nommé capitaine.
En Italie, David Astori serait mort d'une accélération du cœur.
Triste nouvelle Nathalie, le défenseur italien de la Fiorentina, décédé à la veille d'un match au mois de mars, serait mort à cause d'une accélération anormale du rythme cardiaque. D'après un écrit du quotidien italien Corriere della Sera, citant le rapport d'autopsie, David Astori est décédé à 31 ans dans la nuit du 3 au 4 mars dans une chambre d'hôtel d'Udine où la Fiorentina devait disputer un match de championnat. Les experts chargés des examens sur le corps d'Astori ont déposé cette semaine leur conclusion au parquet d'Udine.
Et pour terminer, Nadal Thiem, ce sera l'affiche de la finale de Roland-Garros en tennis.
Dominique Thiem a été le premier finaliste à 24 ans. Thiem disputera dimanche sa plus grosse finale. Après deux demi-finales de rang en 2016 et 2017, l'Autrichien a franchi le cap et retrouvera donc Rafael Nadal pour disputer le titre de Roland-Garros. L'Espagnol, roi de la terre battue, a en effet sorti l'Argentin Juan Martín del Potro en demi-finale.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Merci à vous, Nathalie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. De nombreuses réactions à Kinshasa après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba dans son procès en appel à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Des militants se sont réunis spontanément au siège de son parti, le Mouvement de Libération du Congo, et plusieurs opposants ont salué son acquittement. Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, était au siège du MLC.
C'est l'ambiance qui a régné au siège du Mouvement de Libération du Congo à l'annonce de l'acquittement du président du parti Jean-Pierre Bemba Gombo. Les militants ont pris d'assaut le siège du parti dans la commune de la Gombe au rythme des chants et danses en l'honneur de leur leader. Valentin Guérengo est député national élu MLC.
J'ai suivi ces dossiers, j'ai effectué des voyages, j'ai fait une mémoire sur ça, j'ai écrit un livre. C'est un dossier qui me tenait à cœur. J'ai suivi pas à pas. Aujourd'hui, je dois vous dire que je suis le plus heureux. Jean-Pierre Bemba n'est pas libéré, mais il est acquitté.
Comme lui, ces militants restaient fidèles au Mouvement de Libération du Congo malgré ces 10 longues années passées par leur leader en prison.
Je m'appelle Joseph Pingaka. Sentiment de joie, de satisfaction, d'action des grâces à Dieu, comme on dit toujours, avec Dieu nous vaincrons. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour l'emprisonnement, il y a aussi un temps pour la libération. Le temps de la libération a sonné.
Je m'appelle Monsieur Papi.
Pour nous, c'est la joie parce que Jean-Pierre Bemba est dehors.
Jamais enterré quelqu'un avant la décision de Dieu, a réagi pour sa part l'opposant Vital Kamerhe, pour qui le vrai jeu politique va commencer avec ce grand leader de la scène politique congolaise en liberté.
Il ne faut jamais souhaiter le malheur des autres. Là, il s'agit d'un frère que je connais très bien, qui a souffert, et il sait très bien combien et comment nous avons organisé son départ en exil avec Madame Eve Bazaïba. Aujourd'hui, je suis un homme très heureux parce que je n'aime pas l'injustice sous toutes ses formes.
Sur son compte Twitter, Moïse Katumbi a pour sa part félicité son compatriote Jean-Pierre Bemba en ajoutant, je cite, « Son acquittement montre que la vérité finit toujours par triompher. À ceux qui utilisent encore des faux procès, cette décision marque le début d'une nouvelle ère de justice pour la République démocratique du Congo. » Fin de citation. Une folle ambiance a envahi les rues de Kinshasa. Des célébrations, des klaxons des véhicules et des motos ont duré plusieurs minutes après l'annonce de l'acquittement de l'ancien vice-président de la RDC, challenger du président Kabila en 2006, dont les Kinois attendent désormais le retour à Kinshasa.
Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Ce soir, dans l'Amérique et vous, le point sur les enjeux du sommet du G7 qui débute aujourd'hui au Canada. C'est dans un contexte tendu que les dirigeants du groupe des 7 se retrouvent au Québec. Les taxes américaines sur l'importation d'acier et d'aluminium indignent les alliés des États-Unis. Les autres membres du G7 ont-ils les moyens de riposter ? Morgane Guerrier, en votre compagnie, réagissant en direct à 19h temps universel en appelant le 001-202-205-2633. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons. À ce soir. Surprise encore aujourd'hui au Burundi, au sein de la classe politique et de la population, après l'annonce faite à Gitega par le président Pierre Nkurunziza, ayant déclaré qu'il n'entendait pas se porter candidat à l'élection présidentielle. L'opposition ne croit pas à cette annonce et certains Burundais attendent de voir ce qui se passera d'ici 2020. Les formations proches du pouvoir affirment pour leur part que le Burundi sera bientôt un modèle de démocratie dans la sous-région et en Afrique. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, a tendu le micro à des habitants de la capitale.
Au lendemain de la déclaration du président Pierre Nkurunziza qu'il ne va plus briguer un autre mandat en 2020 et qu'il soutiendra de toute son énergie et de toute son intelligence le prochain président qui sera élu, certains Burundais de la capitale Bujumbura ont des avis partagés. Les sceptiques sont nombreux.
Qu'est-ce qui l'a poussé réellement à ne pas briguer ce mandat, alors que, vu ce qui s'est passé pendant ce troisième mandat, cela m'amène à bien des questions que je peux me poser personnellement, mais attendons voir.
Monsieur Nkurunziza, même en 2015, il a prononcé un discours qu'il quittera le pouvoir. Il n'a pas quitté le pouvoir. Ce n'est pas la première fois. En 2020, nous verrons la récompense de ce qu'il a dit.
L'opposition intérieure et celle en exil ne croient pas à la promesse inattendue du président Pierre Nkurunziza. Pour ses opposants, le président burundais veut distraire la communauté internationale et le peuple burundais pour que le moment venu, en 2020, il revienne à sa présidence à vie, la nouvelle constitution pouvant lui permettre de diriger le pays jusqu'en 2034. Mais pour le président du parti UPRONA, Union pour le Progrès National, proche du pouvoir, Abel Gachati, l'annonce présidentielle a pris de court les opposants.
C'est un message qui a coupé coupe spéculation à certains politiciens qui ne faisaient que dire que le président de la République a proposé l'amendement de cette constitution pour s'éterniser au pouvoir.
Le journaliste Jean de Dieu Senguiyumva, membre de la société civile, salue le courage du président burundais, même s'il se pose de nombreuses questions.
Est-ce qu'il a été poussé à renoncer à ce mandat? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il s'agirait d'une sorte d'oppression qui proviendrait de son propre parti politique, le CNDD-FDD, est-ce qu'il se sent finalement incapable de continuer à diriger le pays? Est-ce qu'il est fatigué? On ne sait pas encore la raison qui a poussé le président Pierre Nkurunziza à faire cette annonce, que je salue, parce que ça va contribuer à coup sûr à assainir le climat politique.
Julien Nimubona est politologue qui enseigne à l'Université du Burundi.
La croyance en la parole du chef de l'État, le respect de la parole donnée. Il veut apparaître comme un chef d'État, un homme de Dieu. On accorde crédit à son discours. Deuxième façon d'analyser la chose, c'est un homme de pouvoir, un chef d'État, qui est pris dans des contradictions internes à sa famille politique. Enfin, il y a les pressions de l'environnement. Donc l'asphyxie économique dans laquelle nous vivons, qui a un impact sur la légitimité interne.
Le président burundais avait souligné jeudi que dans la tradition burundaise, un homme se retourne dans son lit, mais ne se retourne pas dans sa parole. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Un an des élections générales en Afrique du Sud, l'ANC au pouvoir a promis d'accélérer la réforme de la terre au profit de la majorité noire dépossédée pendant l'apartheid. Le gouvernement prévoit notamment d'exproprier sans indemniser pour restaurer la dignité des noirs. Pour analyse, Eric Manirakidza, adjoint à Pretoria, le professeur à l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA, André Thomashausen.
Dans l'année 1913, le pouvoir colonial anglais avait passé une loi par laquelle 86% des terres, des terrains en Afrique du Sud, fut réservé pour la propriété aux blancs. C'est-à-dire un noir, un Africain, ne pouvait pas acquérir la propriété des terres dans cette zone énorme, dans pratiquement la totalité de l'Afrique du Sud. Ainsi, il y a une injustice historique qu'il faut essayer de résoudre.
Comment le faire?
On a essayé de le faire à travers la restitution des terres. Quand il y a eu des familles ou des communautés africaines qui pouvaient démontrer qu'ils étaient déplacés de leur territoire traditionnel où ils avaient vécu avant 1913, ils ont acquis un droit de restitution. Le gouvernement a restitué en effet 14% des terres fertiles en Afrique du Sud, mais le programme a pas seulement coûté beaucoup d'argent parce qu'on a dû payer les compensations, mais aussi le programme a échoué. Pratiquement la totalité de ces terrains restitués ne sont plus productifs, parce qu'ils ont été restitués à des gens qui ne sont pas des agriculteurs, qui ne sont pas des fermiers. Et les terrains, aujourd'hui, se trouvent abandonnés.
l'année prochaine, vous allez avoir des élections. Est-ce que vous pensez que Cyril Ramaphosa pourra régler cette situation?
Très difficile. Il y a une résistance très forte du secteur agricole. Le secteur agricole productif, il est pratiquement à 100% blanc. Et ces gens-là, évidemment, ils ont peur. Ils ont peur d'une interférence dans leurs droits acquis. Aussi, pas possible de faire des investissements quand il n'y a pas une certainté sur le titre de propriété. Ça va très facilement provoquer une crise dans la production agricole, même pour la sécurité alimentaire. Et pour l'ANC, c'est difficile pour Ramaphosa de trouver un compromis entre la gauche du parti et aussi le parti d'opposition d'extrême gauche, les lutteurs pour la libération économique de M. Malema. Je pense qu'ils ne vont pas pouvoir passer une nouvelle loi avant l'élection de 2019. Ils vont essayer de faire quelques réformes, de donner un peu plus d'appui technique et d'appui de formation aux nouveaux propriétaires des terrains qui ont déjà été restitués pour essayer d'en faire un succès. Mais d'exproprier maintenant des terres qui sont productives serait un énorme risque économique.
C'était le professeur André Thomashausen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. Le président américain Donald Trump s'arrête au Canada pour une confrontation attendue avec ses alliés du G7. L'atmosphère s'est envenimée par les taxes américaines sur les importations d'acier et d'aluminium. L'hôte du sommet, le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron ont critiqué la décision américaine. Que peuvent faire les Européens et Canadiens face aux États-Unis? Idriss Fall a joint Jean-François Seznec, professeur d'économie à l'université Georgetown, pour lui poser la question.
Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils peuvent bien sûr se plaindre très fort, ils peuvent crier beaucoup, mais ils peuvent critiquer le président américain très très violemment, mais à la limite, ils ne peuvent pas faire grand-chose. La balance commerciale est tellement déficitaire aux États-Unis vis-à-vis de l'Europe que si vraiment les Européens essayent de faire une guerre commerciale contre les États-Unis, les Européens perdront beaucoup plus que les Américains. Les taxes qu'ils mettent sur les importations américaines en Europe font du mal aux États-Unis. À ce moment-là, tout d'un coup, Trump se mettra à mettre des taxes importantes, comme ils ont commencé à étudier la chose. Sur les importations de voitures allemandes, par exemple, la plus grosse cause de déficit commercial des États-Unis. Donc, les Européens, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour se battre contre Trump en ce moment.
Donc, le G7, là, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des positions de conciliation.
Je ne sais pas vraiment ce que les Européens peuvent offrir à Trump, sauf que peut-être il pourrait limiter, parce qu'il y a quand même beaucoup de barrières mises par les Européens sur les produits agricoles pour qu'il n'y ait pas de concurrence avec les fermiers français, allemands, etc. Et donc il pourrait y avoir une négociation là-dessus. Le problème, c'est que du côté européen, les familles, etc., ne veulent pas souffrir du fait qu'ils sont en concurrence avec les produits américains.
Mais est-ce que l'Europe pourra parler d'une seule et même voix? Parce que les intérêts allemands et français sont parfois divergents quand même.
C'est toujours un problème. Est-ce que la France et l'Allemagne essayent de travailler ensemble en ce moment autant que possible, mais il y a quand même beaucoup d'intérêts divergents. Donc les Américains peuvent relativement facilement travailler avec un pays, mais pas avec l'autre, et casser le front européen contre les Américains. Ça, c'est relativement facile, à mon avis.
Il y a un autre contentieux, c'est l'accord sur le nucléaire iranien. L'administration Trump menace de sanctions quiconque fera des affaires avec Téhéran.
À nouveau, les Européens qui essayaient de mettre en place des systèmes qui pourraient compenser les compagnies européennes qui font des affaires en Iran. Les grosses compagnies européennes ont déjà décidé, ils ne peuvent rien faire en Iran et ils vont travailler uniquement avec les États-Unis. Peugeot PSA, la grande compagnie française de voitures, a déjà annoncé qu'ils allaient sortir de l'Iran. Total l'a déjà fait. Donc les Européens, de la même façon, n'ont aucune chance de vraiment faire un front contre les États-Unis et essayer de défendre l'Iran contre les États-Unis. Vraiment aucune chance que les Européens gagnent là-dessus.
C'était le professeur Jean-François Seznec de l'université de Georgetown, ici à Washington. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. À la console, Sidrac Franklin. À la présentation, Nathalie Barge. Très bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.